Bonjour à tous, c'est Sacha, et bienvenue dans la tête d'un yogi. Dans cette émission, vous allez pouvoir me retrouver seul ou accompagné d'un ou d'une invitée pour aborder un thème en particulier et vous permettre d'aller plus loin dans la pratique du yoga. On se retrouve tout de suite pour le podcast.
Bonjour et bienvenue dans le podcast de Yoga Masté. Je suis Sacha, créateur de la marque et chaîne YouTube Yoga Masté et professeur de yoga à Paris. Ma mission de vie, mon dharma, est de transmettre au plus grand nombre la transformation que le yoga peut amener dans la vie de chacun d'entre nous. Je me considère comme un passeur du yoga, je ne suis qu'un intermédiaire entre vous et le yoga, et j'ai créé ce podcast pour vous permettre d'aller plus loin dans votre pratique. Chacun des podcasts nous permet d'aller à la rencontre d'un professeur ou d'une personnalité pour qui le yoga joue un rôle essentiel. Dans chaque épisode, nous commençons par nous intéresser à notre invité en cherchant à comprendre son rapport au yoga, pour ensuite nous intéresser à un thème en particulier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous suivre sur Instagram et YouTube. Tous les liens seront dans la description. Vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube et Spotify. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on reçoit Élise. Bonjour Élise.
Bonjour Sacha.
Et du coup, on va commencer un petit peu par s'intéresser à toi et je vais te poser quelques questions avant d'aborder le thème du jour qui sera le yoga et le végétarisme.
Oui.
Alors d'abord, depuis quand pratiques-tu le yoga et qu'est-ce qui t'a amené au yoga ?
Alors, ma pratique est plutôt récente, puisque ça fait maintenant 6 ans que je pratique le yoga de manière consistante, disons. J'ai découvert par contre le yoga il y a plus de temps, il y a peut-être il y a 10 ans. Et le premier cours de yoga ne m'avait pas du tout plu. J'étais là, mais où suis-je? Donc c'est assez marrant que finalement des chemins et des rencontres et des choses qu'on peut vivre nous ramènent vers ça ou vers d'autres choses. Et j'ai pu appréhender cette discipline avec une autre perspective. Depuis un an et demi, maintenant, bien un an et demi, j'enseigne le yoga à Paris également. Au départ, je l'enseignais en plus de mon travail à plein temps dans la travail dans lequel je faisais dans une agence de design et j'ai décidé ensuite de me consacrer à l'enseignement et à cette approche yogique qui finalement en fait prend son sens bien au-delà du tapis et bien au-delà de l'enseignement puisque ça m'accompagne au quotidien chaque minute et je ressentais le yoga, mais peut-être on va en rediscuter ensuite, mais finalement avant même de me dire que je voulais l'enseigner, parce que j'adore la transmission et c'est surtout cette approche au corps et de proposer aux gens quelque chose de thérapeutique, toujours dans le soin, prendre soin des gens, je ne sais plus ce que je voulais dire, finalement, cette approche du yoga, je l'ai sentie il y a plus de temps, plusieurs années, où déjà, même dans mon quotidien, dans ma façon d'appréhender ma vie, chez moi, le rapport aux autres, le rapport à l'environnement, le yoga était présent, alors okay. Que je ne mettais pas forcément le mot yoga.
Et du coup, j'ai enchaîné en te demandant, pour toi, c'est quoi ta définition du yoga, puisque tu nous dis que ça t'accompagne au quotidien, que ça soit sur le mat comme en dehors.
Oui.
Et je te demande pas la définition du dictionnaire du yoga, mais qu'est-ce que le yoga c'est pour toi? Comment tu l'entends, tu vois? Comment tu le définis un petit peu?
Oui. Le yoga, pour moi, c'est une approche holistique. Ce n'est pas un sport, donc je vais faire un petit peu à la négative, mais je ne l'appréhende pas comme un sport ou comme des préceptes. Enfin, c'est pas des préceptes non plus. Ou bien sûr, il y a des règles de vie éthiques personnelles et envers les autres qui m'accompagnent au quotidien, les yama niyama. Mais c'est au-delà de ça, c'est tellement global que je dirais que le yoga, pour moi, c'est une manière d'appréhender la vie avec le plus de conscience possible sur l'instant présent. le yoga et le fait d'être pleinement concentrée, ce qui est vraiment pas facile, hein, et c'est un travail constant, mais de revenir à cet état ici et maintenant. Et de pouvoir en apprécier les couleurs.
Ok, ça marche. Juste avant de passer à la question suivante, juste pour préciser au niveau des yamas et des niyamas, pour ceux qui ne savent pas finalement ce que c'est et qui peut-être découvrent le yoga ou le podcast, ce qu'Élise en parlait, c'est finalement des règles que l'on s'impose nous-mêmes vis-à-vis de nous et vis-à-vis de la société, de notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et de la société. Et c'est en ça que du coup, je pense que ça t'accompagne au quotidien, comme ça accompagne beaucoup de gens qui s'intéressent à la philosophie aussi du yoga. C'est que du coup, ces règles font que ça t'accompagne 24 heures sur 24 et c'est pas juste le moment où t'es sur le tapis, quoi.
Mm-hmm, c'est ça ? Exactement. Finalement, pour ajouter à ça, c'est que ce qui se passe sur le tapis, et ça va être plutôt la partie asana, posture physique, et aussi pranayama, disons, des exercices de respiration, eh bien, ce qui se passe sur le tapis, c'est peut-être 1%, mais c'est essentiel, puisque ce qu'on va ressentir et travailler sur le tapis, eh bien, c'est comme un point de départ ou une continuité aussi ensuite pour ce qui va se passer ensuite dans notre vie. Okay. Et notamment, une chose, peut-être pour être plus concrète, j'aime beaucoup, moi, par exemple, la posture de... Et j'aime l'enseigner à chaque cours, c'est la posture du squat des orteils. Juste, on s'installe, on s'assoit et on étire l'arrière des orteils. Eh bien, ça, pour beaucoup de personnes, c'est presque douloureux. Après, on ne va pas chercher la douleur ou la torture. Mais c'est surtout de comprendre que l'inconfort qu'on va avoir dans cette pause va déjà se calmer par une respiration, par le retour à soi, etc. Et c'est de comment trouver dans l'inconfort manifeste, du confort à l'intérieur, retrouver de la sérénité et aller au-delà de cet inconfort pour ressentir et engager une transformation. Donc ça, c'est finalement sur le tapis, c'est très facile d'être bien confortable quand on maîtrise par exemple une posture et d'être bien, de bien respirer. Mais quand on arrive à trouver du confort dans l'inconfort, dans les postures ou dans d'autres choses, et bien dans la vie, puisque la vie n'est que mouvement en fait, et qu'à chaque fois, quand on a trouvé un équilibre, on a des épisodes où on doit retrouver un équilibre, et bien en fait ça nous amène à trouver un équilibre à l'intérieur suite à toutes les perturbations qu'on peut avoir à l'extérieur.
Donc on peut se servir de l'expérience qu'on a sur le mat avec l'inconfort pour la retrouver en dehors.
Exactement.
Et est-ce que tu penses que ça, c'est spécifique au yoga ou tu peux le retrouver avec d'autres sports? Parce que c'est vrai que moi, je vois la chose de la même manière que toi. Mmh. Et pour autant, c'est pas parce que je vais souffrir pendant que je vais courir, par exemple, que je ressens, que je peux transporter cette souffrance et la mettre dans ma vie tous les jours. C'est bien plus fort avec le yoga. Je sais pas si tu penses
exactement,
pareil.
Exactement, bien sûr.
Et du coup, est-ce que tu serais capable ou non de dire pourquoi pourquoi finalement c'est avec le yoga tu peux transmettre ce que tu pratiques avec ton quotidien et choses qu'on ne pourrait pas forcément faire avec un sport.
Avec un sport, c'est vrai que, en tout cas, on pourrait appliquer ceci à d'autres sports, par exemple la course à pied, et ça, c'est un défi, un surpassement de soi, et ça c'est quelque chose qu'on peut appliquer et qui peut avoir beaucoup de bénéfices ensuite dans notre vie. Mais le yoga, finalement, dans sa pratique, sur le tapis et au-delà, mais nous amène à vraiment une écoute intérieure qu'on n'a pas forcément dans les sports. En tout cas, moi, par mon expérience, j'ai compris mon corps que je découvre chaque jour encore, mais j'ai une sorte d'écoute et de connaissance de mon corps et de l'intérieur. Et au-delà de ce corps physique, on a beaucoup de corps qu'on peut voir en yoga, etc., corps énergétique, etc., que ça nous parle ou pas, mais eh bien, il y a ce noyau irréductible qui est à l'intérieur de nous et qui nous dépasse corporellement, qu'on appelle Atman en yoga, et cet être cette connaissance de l'être, qui est un voyage perpétuel, parce que on en apprend, comme je disais, tout le temps, et ben ça, c'est grâce au yoga, que je ne trouve pas dans d'autres sports. Après, je ne suis pas une grande sportive, j'ai essayé de plein de sports, mais jamais en compétition, ce qui m'intéresse pas forcément. Donc, peut-être que je n'ai pas, voilà, je n'ai pas cette connaissance de tous les sports. Mais
pour rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, moi qui pour le coup ai plus d'expérience dans la compétition sportive, etc., en t'écoutant, j'ai réalisé qu'en fait, quand on fait du yoga, on écoute son corps et finalement, c'est pour ça que c'est pas un sport, c'est qu'on va en. On travaille en équipe, entre guillemets, entre notre mental et notre corps. Et justement, on va dans l'écoute du corps pour aller plus loin. Alors que dans beaucoup de sports, enfin, dans la plupart des sports, du moins ceux que j'ai pu pratiquer, on oppose l'esprit et le corps. On essaye de taire notre corps pour juste écouter notre esprit et se dire, c'est au mental, on va plus loin. Mmh. Alors que finalement, on se rend compte au yoga que quand on associe le corps et le mental va plus loin simplement que parce qu'au bout d'un moment, le corps, il casse. Vois ce que je veux dire?
Exactement. Tout à fait. Et c'est super intéressant parce que, en fait, on a à la fois ce soin qu'on s'apporte. Et donc, c'est de l'amour qu'on s'apporte, hein, finalement. Cette écoute. En même temps, c'est aussi on prône l'immobilité des fois. Alors, il y a beaucoup de styles de yoga où on va beaucoup bouger dans tous les sens, mais l'immobilité physique pour écouter et aller chercher quand même non pas un confort absolu dans un asana. Un asana devient confortable quand on trouve le confort à l'intérieur, alors qu'il est inconfortable. C'est dans cette approche-là où on prend aussi le temps de ralentir, on prend le temps de s'immobiliser, mais dans un effort aussi, qu'on peut qualifier d'effort. Et c'est ça, ouais. Et j'avais autre chose, mais je...
C'est pas grave. du coup, pour enchaîner, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou qu'est-ce qui a fait que t'es devenu prof? Qu'est-ce qui a fait que t'as passé le cap et que t'as décidé de... À ton tour, transmettre, du coup.
Alors, je faisais pas mal de yoga et je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin déjà pour l'instant. Au départ, c'était pour moi. Je dirais, j'aime pas, en fait, j'allais dire pour ma pratique personnelle. Mais j'ai du mal avec le « ma », j'ai du mal avec les pronoms personnels. Ça rejoint ce que j'avais oublié de dire juste avant. Je fais un petit pont avec le ma, etc. Parce qu'il y a toujours de l'attachement. Et on va essayer aussi dans le yoga, ce qui est la différence avec d'autres sports, à mon sens, encore une fois, c'est que le yoga, dans ses principes dont on parlait tout à l'heure, amène à être totalement détaché et donc dans l'indifférence des progrès et de l'absence de progrès. Très difficile. On va se retrouver avec des personnes qui pratiquent le yoga et qui sont dans une démarche très corporelle. Après, chacun a sa pratique, donc c'est pas un regard néfaste, c'est juste une sorte de toile de fond ou de constat. Mais on oublie, et moi la première, puisqu'il y a l'ego encore, mais on oublie le fait de se détacher des progrès qu'on peut faire dans des asanas, ou de l'absence de progrès, puisque voilà, il y a l'ego qui revient. Et donc c'est de faire la différence entre l'ego et le corps et tout ce qu'il y a autour. Et donc là, le ma aussi, ma pratique, etc., ça faisait partie de ça.
Vas-y, change. Je te coupe juste. Quand on parle de progrès, je pense que tu n'entends pas simplement un progrès physique, parce que c'est vrai que notamment si vous commencez le yoga, vous pouvez être entre guillemets jaloux des gens que vous voyez à côté de vous, qui sont peut-être plus souples, peut-être plus forts, peut-être qui arrivent à faire des équilibres qui vous semblent strictement impossibles. Et c'est pas ça, c'est pas le fait d'arriver à faire un équilibre qui vous ferait progresser dans le yoga. Arriver à faire un équilibre ou le grand écart ou ce que vous voulez, ça vous permet de progresser. Dans le grand écart, ça vous permet de progresser en équilibre, mais c'est pas ça qui vous fait progresser en yoga. On est OK là-dessus, ou pas? Ouais. Donc voilà, c'est juste, je te coupais deux secondes là-dessus, juste pour que tout, enfin, les auditeurs, ils soient clairs vis-à-vis de ce que t'entendais par progrès, et justement comprendre que c'est un progrès au sens complètement, enfin, beaucoup plus large, que ça, c'est un progrès avant tout interne, avant d'être un progrès visible par par soi-même en fait et par les autres, quoi.
Oui, mais aussi on est très attaché encore au corps, à cette enveloppe. Donc on s'attache à ce corps, et alors que en fait.
Voilà.
Ouais, c'est on s'attache à ce corps, c'est tout. Et qu'on va rechercher des fois, on se dit ah tiens là c'est bien, puis là je me sens plus fit, ou j'en sais rien. Bien sûr, à des moments c'est, mais voilà, c'est cette profondeur de yoga qui me plaît, qui nous amène à aller au-delà de ça.
Je rajoute, j'entendais cette gourou qui disait qu'en fait certains yogis choisissaient un seul asana et qui le gardaient tout le long de leur vie, et qui pratiquaient qu'un seul asana, souvent c'est le lotus, et qui restent en méditation dans l'asana, et ils en pratiquent qu'un tout au long de leur vie, ils feront jamais de trikonasana, de tout ce que tu veux, d'équilibre, ou peu importe. Et en fait, le fait de rester en profondeur dans un asana, c'est justement, plus vous allez le pratiquer, plus ça va vous permettre d'arriver à être en méditation dans l'asana, arriver à trouver du confort dans la confort, comme tu disais au début. Et du coup, ça rejoint le fait que c'est pas le progrès, ce n'est pas faire plus d'asana, c'est pas maîtriser un asana en plus, mais justement maîtriser. Il y a une grande différence entre visuellement maîtriser quelque chose et maîtriser de manière intérieure, être pleinement conscient dans la posture. Je prends par exemple chercher asana. Peut-être que au début vous allez réussir à être sur la tête, mais vous allez être tout le temps en train de penser à il faut pas que je tombe, qu'est-ce qui se passe si je tombe. Vous allez bloquer votre souffle. Et progresser en shirshasana, ça peut être juste arriver à respirer. C'est pas avoir vos jambes plus droites ou quoi que ce soit, c'est juste arriver à respirer, arriver à rentrer en méditation dans la posture. Et c'est pour ça que il n'y a pas besoin de 50 millions d'asana pour pouvoir pratiquer le yoga, et que certains yogis bien plus avancés que 99% des autres yogis font, enfin, pratiquant du yoga, font simplement un asana, ou alors font la même série d'asana tous les jours, où ils font juste des salutations au soleil. Et voilà.
Et pour terminer là-dessus, il y a deux choses. C'est aussi, ben, dans la répétition de ce que tu dis, par exemple d'un asana ou de la salutation chaque jour. C'est pas forcément facile, mais ça nous invite aussi à trouver de la joie dans la répétition. Cette joie intérieure qui est toujours là, c'est un des états de l'être qu'on a à l'intérieur, comme l'amour et la paix, mais qui... on a certains nuages, quoi. Il faut enlever les nuages des fois pour retrouver ces états inconditionnels à notre être. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que une posture n'est qu'un instrument, un asana n'est qu'un instrument. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le chemin pour arriver à cet asana. C'est ce chemin. Sirsasana n'est pas une fin en soi. Par contre, le chemin pour y arriver et comprendre tous les mécanismes corporels, puis respiratoires, puis énergétiques, etc. Eh bien, c'est ça, en fait, à apprécier. Peut-être que, et ça peut aussi se rapprocher d'autres sports, ou par exemple des défis, en fait, qu'on peut se donner quand on va aller courir un marathon. Ben, en fait, on s'en fout de la ligne d'arrivée. C'est tout le chemin, c'est ce chemin le parcours d'entraînement, travail mental, etc. Cette foi qu'on peut avoir en soi, ces obstacles qu'on essaye de dépasser, des obstacles qui sont que intérieurs, hein, toujours. Eh bien, c'est ça, c'est ce chemin qu'on peut retrouver dans d'autres sports, mais qu'on a beaucoup en yoga.
Et du coup, ça me fait penser à un sujet aussi. J'en ai parlé dans une vidéo où je disais, est-ce que il y a une question que j'entends beaucoup, c'est est-ce que j'ai besoin d'être souple? Je suis pas souple, je peux pas faire du yoga.
Ah, oui.
Et justement, je parlais de l'avantage de pas être souple quand on commence le yoga, parce que moi j'ai commencé le yoga en étant le caricature du sportif qui peut pas toucher ses pieds, qui est pas du tout souple.
Ouais.
Et du coup, tu ressens une telle tension physique dans quasiment toutes les postures.
Ouais.
Que tu sens tout de suite quel muscle t'as besoin d'engager, comment tu dois aller dans l'asana, en fait. Et à contrario, j'ai des amis qui ont commencé le yoga et qui avaient fait beaucoup de danse ou quoi que ce soit, et qui étaient très très souples, et du coup qui, dans certains asanas, ne sentaient absolument rien. Donc en fait, elles n'étaient pas dans l'asana, puisque je me rappelle plus exactement d'une citation, mais qui disait que si on n'engage pas les muscles et qu'on ne sent pas un asana, ben l'asana est mort en fait, et il se passe rien. Et du coup, le fait de justement de quand tu parlais de tout ce chemin, de partir du début et de pas être souple, au contraire, c'est une grande aide pour le yoga. Maintenant, je me rends compte que j'ai gagné beaucoup de souplesse. J'ai une mémoire musculaire qui me dit quel muscle je dois engager dans tel asana. C'est parce que si je suis en relâchement total, finalement t'es pas dans la posture, tu vois.
Ouais. Mais ça c'est une force. C'est une force pour les personnes qui vont enseigner ou qui vont accompagner d'autres personnes à arriver sur une posture. Et bien c'est une force de pas avoir eu cette posture directe en claquant des doigts et que ton corps t'ait donné un enseignement aussi pas à pas en te disant tiens et si t'engageais ça et si t'engageais ça et là ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça prend du temps, mais ça nous apprend beaucoup de patience aussi et d'humilité. Et c'est clair que au contraire de vous dire je suis pas souple, c'est pas pour moi, au contraire c'est pour vous. Le yoga assouplit au-delà du physique, du corps, assouplit les pensées, assouplit plein de choses, les croyances, etc. Mais aussi vous risquez de moins vous blesser qu'une personne très très laxe, très très souple, très laxe, qui va peut-être plus se blesser. Donc votre corps vous donne aussi une barrière de sécurité qui est très très chouette. Donc faut prendre ça comme une chance.
Je suis d'accord avec toi. Mais justement, à contrario, si vous venez comme moi d'un profil plus sportif, sur certaines postures, comme justement sur les chaturanga, vu que c'est en soi même pas une pompe, moi au début je comprenais pas quand j'entendais certaines personnes dire oh là là on a des chaturanga, ça va me tuer quoi. Pour moi c'est tellement rien comme pour quelqu'un, c'était tellement rien comme pour quelqu'un pour qui la souplesse est tellement importante que je sais pas, en uttanasana elle va rien sentir aux jambes alors que moi j'étais KO quoi. Et du coup à contrario, justement, si vous venez développer une certaine force, il va falloir apprendre à justement sentir qu'est-ce qui doit être engagé dans la posture, et ça c'est pas facile. Donc finalement, dites-vous que vous soyez pas souple ou que vous n'ayez pas de force, dans les deux cas c'est un avantage en fait quand tu commences le yoga, parce que justement on va avoir tout ce chemin et dans tous les cas on va beaucoup mieux savoir qu'est-ce qu'on doit engager quoi.
En fait le yoga est fait pour tous, vraiment, il n'y a pas de alors il y a des contre-indications pour certaines poses, mais en fait le yoga dans sa globalité est carrément fait pour tous, et surtout c'est ça.
Et ça me rappelle aussi quand on parlait justement de, on a pris un exemple Shirshasana et c'est vrai que j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, et je disais que si le fait de maîtriser un équilibre ou d'être souple, ça voulait dire être un yogi, tous les gens du cirque seraient des yogis, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, en aucun cas, le fait de savoir faire des postures dites avancées va faire de vous un yogi. Et dans le sens contraire, si vous ne savez pas maîtriser ces postures, entre guillemets, ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas un bon yogi ou quoi que ce soit. Donc, faut arriver à vous gérer dans un, quel que soit votre profil dans le yoga, entre guillemets, dans un extrême comme dans l'autre, dans la souplesse, dans la force, qu'elle soit forte ou développée pour l'une comme pour l'autre, ce n'est pas du tout un synonyme d'avancement dans le yoga. Et comme tu disais, c'est que 1% du temps qu'on va pratiquer des postures physiques, et le reste du temps, ça va être tout ce qui va être interne. Et il y a que vous qui pouvez voir vos progrès, entre guillemets. On peut voir, waouh, c'est trop bien, t'as progressé en souplesse, mais dans ce cas-là, on parle de la souplesse, on parle pas du yoga, tu vois. Du coup, on a fait un grand écart. On était sur le pourquoi tu étais devenue prof.
Oui, et donc, pourquoi je suis devenue prof? Parce que c'était aussi pour dans l'objectif de prendre soin des gens. Parce que moi, le yoga m'a permis de déverrouiller des sortes de sensibilité. Un éveil à plein de choses. Et je pense que c'est vraiment grâce à cette pratique de yoga où j'ai été éveillée sur plein de pans de vie. Et notamment, en fait, on va y revenir, mais notamment, j'ai été éveillée sur la souffrance animale. Que je n'avais pas vraiment intégré. Quand je dis éveillée, là, ça a été une sorte d'intégration, mais c'est viscéral, en fait. Et ça, c'est par la pratique. C'est pas pour ça que je suis devenue végétarienne avant, mais j'ai été éveillée notamment par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Et c'est donc... et le fait de prendre soin de soi, de comprendre son corps... et a tellement de bénéfices ensuite de ben aussi de d'appréhender les autres que c'est ça qui me semblait aussi très intéressant à partager. C'est devenu un besoin quoi. Au départ j'ai commencé une première formation où c'était pour moi, mais finalement j'adore aussi transmettre plein de choses et donc c'est devenu évident assez rapidement et puis après ben les choses continuent j'ai enseigné de plus en plus enseigné et je continue. C'est un plaisir, c'est... Je sais pas si le mot vocation, je ne pense pas, parce que c'est, je sais pas, une sorte de quelque chose de fluide et naturel.
Ok. Et est-ce que dans ton parcours, que ce soit en tant que pratiquante ou enseignante, si on peut diviser les deux,
oui.
Est-ce qu'il y a eu une ou des personnes, deux ou trois, qui ont été importantes pour toi? Si oui, pourquoi?
Ah oui, ouais, carrément. Bah, la première personne, ça a été Sandra Insoa, qui, en fait, par qui m'a amenée dans des dimensions plus subtiles. J'ai appréhendé la pratique d'une autre manière. Bien sûr, Mathieu Boldron, avec qui j'ai commencé à me former, qui est une personne incroyablement généreuse et très précis, rigoureux dans ce qu'il va transmettre, avec un regard toujours aussi prendre soin de la personne physiquement, que ce soit un yoga thérapie, c'est ça que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a aussi les personnes dans le parti du yoga thérapie et au-delà du yoga thérapie, la vision du yoga dans sa globalité. Eric et Ricarda Langevin, qui sont eux fondateurs du studio Yoga Vision. Et il y a bien sûr aussi Mika De Brito, qui m'a beaucoup apporté à des moments de vie qui ont été difficiles pour moi et il m'apporte encore. Il a une vision du yoga où on peut être il se détache de la performance. Ça fait 25 ans qu'il fait du yoga, enfin c'est pour moi lui c'est ouais, c'est un, aussi un vrai yogi quoi, c'est-à-dire dans les dimensions qu'on dit yogi. Je vais en oublier ben, toutes les personnes qui m'ont permis aussi de commencer les cours. Avant ça, Pierre Rabhi, qui pour moi me porte aussi chaque jour, qui est un yogi dans l'âme en fait. Il ne va pas faire d'asana, mais pour lui, il porte toutes les valeurs du yoga. Il m'apporte en fait chaque jour par son approche. Au départ moi je faisais du yoga, mais je me suis beaucoup intéressée à la permaculture il y a 6 ans aussi. Et la permaculture qui est aussi une vision très globale qu'on aussi, en France on sectorise plutôt dans l'agriculture, alors que c'est quelque chose de très global. Et basé sur 3 principes, prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources ou les surplus. Donc la permaculture mêlée au yoga pour moi et amène à une sorte de d'axe de vie qui me porte à chaque instant. Et donc c'est pour ça que je parle de permaculture, parce que Pierre Rabhi voilà. Et je pense que j'en oublie, mais les personnes pour qui je suis très reconnaissante, ouais, c'est ces personnes-là. Et mais bien sûr, il y en a d'autres. Ah oui, je vais citer aussi Héloïse, qui est fondatrice de Fun & Yoga, qui pour moi est dans une approche du yoga complète et une extraordinaire personne aussi, donc qui m'a beaucoup portée et qui me porte beaucoup. Et, mais j'ai beaucoup de chance parce que je suis entourée de gens, même des amis qui ne pratiquent pas forcément le yoga, tu vois, en cours, etc., mais qui ont tellement cette authenticité, vérité et compassion, amour, finalement, en fait, elles sont dans la vérité, quoi. C'est marrant parce qu'il y a des fois où tu vas te retrouver avec des personnes qui font du yoga, prof ou pas, notamment, tu vois, tu dis des profs et en fait, tu t'es dit, mais en fait, oh, mais c'est pas... Enfin, à l'inverse, ouais, tu peux être déçu, ouais. Quoi, tu peux dire... Oh, ben, enfin, c'est pas malheureux, mais c'est pas, ça m'appelle moins, quoi.
Ouais, bah, après, c'est sûr que on reste en Occident, donc globalement, surtout à Paris aussi, où c'est quand même un milieu où c'est, enfin, un milieu, une ville où l'apparence compte énormément, la manière dont t'es compte énormément, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, enfin, sans citer personne ou quoi que ce soit, mais ils ont peut-être pas la notion du yoga holistique dont tu parlais au début, et peut-être aussi pour beaucoup, le yoga c'est plus sans critique, c'est peut-être plus une gymnastique comme et une manière de se montrer, de vouloir être vu et
de se faire
être
avoir.
Ouais, et d'être beaucoup moins dans l'authenticité aussi, et on retrouve. Et c'est pas mal en soi, c'est juste que c'est une autre approche et c'est pas le yoga que moi en tout cas je veux partager et dont on parle en tout cas aujourd'hui.
Oui.
Et moi c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer des vêtements pour le yoga et maintenant que ça m'a amené d'autres choses à justement créer comme là les podcasts ou les vidéos qui sont du coup complètement gratuits parce qu'on est dans un milieu où le yoga ça coûte quand même très cher.
Ouais.
Surtout ici en France, à Paris, ça coûte cher de prendre un cours, ça coûte cher de s'habiller si on veut s'habiller de manière yoga entre guillemets. Et du coup, moi c'est aussi venu d'une part où je me disais j'aime bien. J'étais encore peut-être dans un moment où j'aimais bien montrer aussi ce que j'aimais, etc. Et c'est en cherchant des habits pour yoga ou quoi que ce soit, enfin des trucs qui, la première chose dont on voit de quelqu'un, c'est comment il est habillé, que son apparence, etc.
Mmh.
Et c'est vrai que je trouvais pas des trucs encore pires pour les hommes, du coup, parce qu'il y a pas grand chose dans le yoga.
Mmh.
Je trouvais pas quelque chose qui pour moi m'allait. Enfin, ou alors c'était trop cher pour moi.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'avec mon associé Valentin, on a eu envie de créer quelque chose qui soit plus accessible, que ça soit au niveau financier, comme au niveau d'être plus simple peut-être, tu vois, que ça puisse être porté par tous et pas que on se dise non, je suis pas assez fit pour mettre tel legging ou j'en sais rien, tu vois. Et d'associer justement des valeurs qui étaient importantes que j'avais pu trouver dans le yoga, comme le fait que par exemple pour nous, chaque fois qu'on vend par exemple un produit, on verse un don à une association qui fait que ça, on plante un arbre en fait, tu vois. Et ce genre de valeurs pour nous c'était important. Pareil, on fait en sorte que la majorité de nos produits soient faits en France, tu vois, pour créer des emplois en France aussi. Et du coup, c'est vrai que quand tu parles du fait que tu retrouves des fois certains aspects plus yogiques, par exemple chez tes amis, que chez certains pratiquants ou profs, moi, c'est ce que j'ai aussi parfois ressenti. C'est pour ça que j'avais envie d'abord, c'était pour moi, c'était entre guillemets presque égoïste en disant, moi, j'ai pas ce que je veux, il faut que j'ai un truc pour moi. Et en commençant à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour moi, je me suis dit, mais il y a peut-être plein d'autres gens qui sont dans ma situation et qui ont envie d'écouter, peut-être, d'avoir plus de choses à leur disposition aussi. Et voilà, et même au début, je me suis dit, est-ce que je crée pas que des vêtements pour les hommes, par exemple, tu vois, parce que je me suis dit, il y a rien, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a encore plein de clichés sur les hommes qui font du yoga et que ça, c'est pas pour eux, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer ces podcasts aussi, c'est que pour faciliter l'image, faciliter les gens qui aient moins, voilà, qui aient moins aussi de complexes à y aller, et de se dire que, tu vois, moi, j'ai pas une image classique du, je sais pas, déjà, je suis pas une femme, donc c'est rare dans les profs de yoga. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, vu qu'il y a beaucoup plus de pratiquants. Je crois qu'il y a 80% de femmes et 20% d'hommes en termes de rapport de pratiquants en France. Et aussi parce que, tu vois, moi, avant, j'étais dans l'armée, etc. Je suis pas du tout dans l'idée qu'on se fait d'un prof de yoga, tu vois. Et quand je dis que je suis prof de yoga, on dit ah bon, tu vois, enfin genre c'est pas un truc pour les vieux, ou alors c'est quand on est trop souple et tout. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu donner des cours, parce que je me suis dit le yoga, je me considère comme chanceux qu'il soit venu à moi. Ouais. Et j'ai pas l'impression j'ai fait aucun effort pour que le yoga vienne à moi, tu vois. J'ai l'impression que tout est venu tout seul, et que j'ai encore des cadeaux tous les jours du yoga. Et je me suis dit, je peux pas ne pas essayer de rendre un peu, et rien que par mon apparence qui est différente. Et justement, c'est ce que je te disais, la première chose qu'on voit, c'est l'apparence qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir en yoga ou de ce qu'on peut penser. Et je me suis dit, il y a plein de gens, ils vont pouvoir peut-être se dire, ok, moi aussi je peux, tu vois.
Ah ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et du coup, quand tu parlais de ton entourage, etc., avec des fois tu ressentais plus de valeur de yoga dans tes amis que voilà. Bon, certes, du coup, tu as changé de travail, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu as changé dans ton mode de vie? Est-ce que ton entourage, il a changé? Est-ce que, tu vois, depuis que tu t'es mise au yoga et peut-être après, quand tu es devenue prof, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ou finalement pas tant que ça?
En gros, non, ça n'a pas. Parce que, comme je te disais, finalement, j'avais vraiment cette manière de vivre. Avant, sans mettre le mot yoga, qui s'est renforcé bien sûr et qui se renforce tout le temps, mais qui change aussi bien sûr. Mais c'est en gros, je me sens quand même accompagnée des gens depuis quelques années qui me portent. C'est naturellement quoi, ça s'est senti. Non, il n'y a pas eu trop de changements. À part que je suis devenue végétarienne il y a 4 ans maintenant, mais c'est tout quoi.
Ok. Bon, bah écoute, je te remercie, on va passer tout de suite, on se retrouve dans la partie 2 où on parlera plus de végétarisme et on abordera du coup le thème du podcast.